Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition d'Une heure pour convaincre. Ce samedi, nous nous intéressons au tourisme dans la région de l'extrême nord avec les crises sécuritaires et sanitaires qui sévissent. On sait qu'avec cette double crise, toute activité en rapport avec le tourisme a été neutralisée et les solutions sont envisagées aujourd'hui pour faire redécoller ce secteur d'activité. Pour en débattre, nous recevrons dans ce studio le docteur Cody Deli. Il est le délégué régional du tourisme et des loisirs pour l'extrême nord. Tourisme, la question préoccupe les autorités à l'extrême nord. Après la secte Boko Haram, la COVID-19 est venue replonger le tourisme dans un état critique. Allons en savoir davantage dans ce reportage. 2014-2021, 8 ans déjà que le tourisme bat de l'aile à l'extrême nord du Cameroun du fait de la double crise, d'abord sécuritaire et puis sanitaire. La secte Boko Haram a neutralisé l'activité touristique dans la région de l'extrême nord depuis l'année 2014. Le secteur hôtelier, les sites touristiques et agences de tourisme ont tous été affectés par les actes barbares des terroristes et jusqu'à ces jours, les responsables de ces différents secteurs ne s'en sortent pas. Les chiffres d'affaires ont considérablement chuté pour les agences de tourisme et les hôteliers. Les sites touristiques, quant à eux, sont dans un état délabré. Les visiteurs locaux ne se présentent plus, encore moins les étrangers. Les sites sont désormais l'ombre d'eux-mêmes. Au sortir de 2019, alors qu'on espérait le redécollage de l'activité, une crise sanitaire fait surface, la COVID-19. Une crise qui vient ainsi empirer la situation que le tourisme au Cameroun en général et l'extrême nord en particulier traversait déjà. On revient alors au point de départ. Toute activité est paralysée. Entre la secte Boko Haram et la COVID-19, l'extrême nord ne peut plus compter sur le tourisme comme atout majeur de son économie. Il faut penser des stratégies pour faire renaître et revivre l'activité touristique. Aujourd'hui, alors que la crise sécuritaire et la COVID-19 sont peu à peu maîtrisées, les responsables de la question tourisme mettent tout en œuvre pour faire revivre ce secteur. Mais jusqu'ici, de nombreux efforts doivent être conjugués car le tourisme peine à redécoller à l'extrême nord. Chers auditeurs, vous venez d'écouter une brève présentation de la situation du tourisme à l'extrême nord. Nous vous le disions déjà, l'invité de ce jour est le docteur Cody Deli, délégué régional du tourisme et des loisirs pour l'extrême nord. Docteur Cody Deli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez.
Ok, vous êtes le délégué régional du tourisme et des loisirs, il faut le rappeler. Le tourisme va mal à l'extrême nord, cela vous préoccupe-t-il?
C'est une préoccupation majeure, étant donné que je représente le tourisme dans la région de l'extrême nord. Cette situation est d'autant préoccupante que, vous savez, ça préoccupe également notre hiérarchie.
Alors, comment se porte l'activité touristique à ce jour dans la région comparativement aux années d'embellie?
Alors, le tourisme dans la région de l'extrême nord va mal, s'il faut le dire comme ça, parce que vous le savez bien tout comme moi, depuis 2013, c'est le début des exactions de la secte islamiste Boko Haram. Les activités touristiques ont connu une chute drastique avec, c'est-à-dire le fait que les touristes ne pouvaient plus voyager et que la secte elle-même ne facilitait pas même le déplacement aux locaux. Donc,
tout à fait.
Alors, depuis ces années, nous avons constaté, comme je le disais tantôt, une chute sur toutes ses formes, c'est-à-dire les fréquentations d'abord. On est quitté pratiquement autour de 5000 arrivées. C'est-à-dire, quand je dis 5000, c'est les touristes extérieurs, particulièrement les occidentaux,
oui.
À zéro.
Étranger.
Oui, on est quitté de 5000 à zéro. Pour les nationaux, n'en parlons pas, parce que il faut vraiment que je vous dise que l'extrême nord était une destination privilégiée, même pour les touristes locaux.
Quelles sont les difficultés que connaît le secteur du tourisme aujourd'hui? Intéressons-nous tout d'abord aux sites touristiques.
À partir donc des années 2013, on a également constaté une réduction de fréquentation des touristes, c'est-à-dire des locaux dans nos établissements de tourisme et de loisirs. La preuve, c'est que les plus grandes structures construites pour l'accueil des touristes, telles que le campement de Ouassa, le campement de Rosiki, dans le Logone-Birni, à Kalamaloué, toutes ces structures sont aujourd'hui dans un état un peu à déplorer. C'est pas de notre faute, c'est du fait d'abord que la secte a beaucoup joué, et également du fait que quand un établissement n'est pas fréquenté, ça se dégrade. Et puis ce n'est pas aussi évident pour l'État de réhabiliter une structure qui n'est même pas qui n'accueille même personne. Donc voilà à peu près quelques difficultés donc qu'on rencontre au niveau de la baisse des fréquentations. Alors qui dit baisse de fréquentation dit également baisse des chiffres d'affaires dans toutes ces structures. Alors vous allez vous avez dû peut-être constater comme moi, les chiffres sont un peu alarmants, parce que quand on quitte des années d'embellie comme 2010, 2011, 2012, ceci juste avant les exactions, les chiffres d'affaires étaient dépassés annuellement les 1,5 milliard, et puis les années 2014-15, on se retrouve autour de 600 millions de chiffres d'affaires. Vous voyez que c'est une réduction pratiquement de la moitié. Et je dis bien, ça c'est nos chiffres statistiques uniquement issus, c'est-à-dire des établissements d'hébergement comme les hôtels, parce que les statistiques, c'est-à-dire du secteur du tourisme, ne sont pas, c'est-à-dire ne prennent pas en compte les autres aspects, c'est-à-dire les restaurants et autres. Oui. C'est pas aussi évident de pouvoir recueillir les chiffres d'affaires à ces niveaux, mais on est en train de pouvoir, de vouloir le faire pour avoir à peu près des statistiques un peu plus complet concernant dans le secteur du tourisme et des loisirs. Donc, chute de fréquentation, chute de chiffre d'affaires, naturellement, ça va jouer sur les emplois.
Tout à fait.
Et qu'en est-il des agences de tourisme?
Beaucoup ont déserté. Quand on parle des guides de tourisme, beaucoup ont déserté. On avait une quinzaine dans les années 2000. Reconnu d'ailleurs dans les années 2011-2012 dans la région, et aujourd'hui en activité, je pense qu'on en compte peut-être une seule personne qui a su peut-être développer une résilience. Donc voilà, également au niveau des agences de voyage. Je n'ai plus en parler parce que la majorité des agences de voyage ont fermé. Ceux qui résistent ont naturellement diminué tout, c'est-à-dire en matière c'est-à-dire de mobilier tel que les véhicules et tout ça. Donc si rouler avec peut-être 20 à 30 véhicules avant, aujourd'hui vous trouverez rarement quelqu'un qui tourne avec 5 véhicules. C'est clair puisque c'est les touristes occidentaux généralement qui sollicitent souvent ces prestations et puis qui dépensent. Et ils représentent peut-être moins de 10% même de la fréquentation, mais en termes de chiffre d'affaires, ça représente pratiquement la moitié. C'est-à-dire ils dépensent la moitié de chiffre d'affaires. Bon. Mais par contre, ils représentent moins de 10%. Donc, pour dire que les touristes extérieurs dépensent beaucoup plus que les locaux. Donc.
Docteur, les hôteliers s'en sortent?
Au niveau des hôtels, vous allez également constater que certains, même si n'ont pas fermé les portes, ont dû diminuer le personnel. Personnel, naturellement, le chômage a augmenté, diminué le personnel. Certains ont mis le personnel en chômage technique. Donc ça, c'est les conséquences en réalité directes de l'insécurité liée à Boko Haram.
Mais est-ce que la COVID-19 n'est pas venue empirer la situation?
Alors, jusqu'en 2019, début 2019, nous avons constaté quand même une relance. On a reçu pratiquement une trentaine de touristes extérieurs en 2019, donc les Russes, les Italiens, les Turcs, qui sont venus, et puis un plan de médiatisation a été mis sur pied pour faire comprendre aux touristes que la relance était déjà là. Malheureusement, en fin 2019, on nous annonce la crise sanitaire. C'est encore plus grave, je pense bien, parce que on se disait, oui, le Covid peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, voilà, qu'on est à 2 ans, que la situation n'a pas évolué. Peut-être que le vaccin pourrait peut-être nous permettre de nous déplacer librement dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais sinon, pour l'instant, voilà dans la situation créée donc par, premièrement, la crise liée à la secte islamiste Boko Haram, et puis, deuxièmement, la crise sanitaire de la COVID-19 et ses impacts économiques, je veux dire social et tout ça, sur l'économie touristique dans la région de l'Extrême Nord.
Docteur, qu'entendez-vous par économie touristique?
Quand on parle de l'économie touristique, ça ne se limite pas seulement aux hôtels, aux guides, aux agences et tout ça. Parce qu'il y a l'artisanat qui est l'un des produits ou l'un des secteurs les plus consommés, je veux dire, par les touristes. Et ça, comme je le disais tantôt, on ne peut pas voir les statistiques. Tous les touristes, quand ils arrivent, consomment les produits de l'artisanat. Alors, ça a également un impact, sachant que si l'extrême nord a ce potentiel en matière d'artisanat qui est énorme parmi les autres régions du Cameroun. Donc voilà à peu près la situation de l'économie du tourisme dans la région de l'extrême nord à ce jour.
Ok docteur, d'une manière ou d'une autre, vous êtes le représentant du tourisme ici à l'extrême nord. Quel message vous passez aux différents acteurs des secteurs hôteliers, des agences de tourisme et des sites touristiques?
Alors, le premier message, c'est d'abord de développer une résilience. Parce qu'il faudrait quand même que le tourisme puisse résister aux différentes crises. Ça va permettre de nous montrer que le secteur résiste aux facteurs exogènes ou endogènes. C'est-à-dire, la première chose, c'est d'abord de développer la résilience. Parce que vous voyez donc que les deux crises ne dépendaient pas d'eux, ça ne dépend pas de nous non plus. C'est-à-dire, il faut développer la résilience. Il faut également qu'on développe, c'est-à-dire des stratégies de riposte, de proposer d'autres produits, de faire la promotion, parce que ce n'est que ça qui peut véritablement nous sortir de cette situation. Aujourd'hui, par exemple, Boko Haram, d'une manière ou d'une autre, les exactions ont drastiquement cessé. Ça veut dire que la région de l'extrême nord est du coup fréquentable. Alors, il faudrait que et les promoteurs et l'administration se mettent ensemble pour faire de la promotion, parce que ce n'est que ça qui peut donner les informations aux autres que les zones sont fréquentables. Et naturellement, c'est à travers c'est pas les médias et autres médias, c'est-à-dire les Facebook, WhatsApp, les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans son ensemble. Donc ce n'est que comme ça qu'on pourrait réussir à ramener les touristes à encore fréquenter davantage la région de l'extrême nord.
Alors on comprend donc que l'activité, l'économie touristique fait intervenir plusieurs secteurs d'activité. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons prendre une courte pause et nous nous retrouvons tout à l'heure pour la suite. Retour dans ce studio dans le cadre de votre émission « Une heure pour convaincre » avec pour invité le docteur Cody Deli, le délégué régional du tourisme et des loisirs. Docteur, nous poursuivons notre entretien notamment avec les démarches enclenchées pour redonner au tourisme sa teneur d'avant. Mais avant, écoutons quelques usagers de Marois qui donnent leur avis sur ce qu'est devenu le tourisme à l'extrême nord.
La région de l'extrême nord est connue pour sa forte attractivité touristique de par ses multiples sites, montagnes, les lacs, les maillots et tout. C'est ce qui a rendu cette zone assez attractive pour les touristes jadis. Mais depuis l'avènement de la crise Boko Haram, la région souffre beaucoup en matière touristique et ça a un fort impact économique. La région de l'extrême nord étant classée zone rouge par la plupart des pays occidentaux, Cela a vraiment limité les taux de déplacement des étrangers. Mon souhait, c'est vraiment que le tourisme reprenne vie dans la région. Parce que la paix est en train de se construire petit à petit. Et la zone est vraiment viable à un certain niveau. Donc, on voudrait que déjà les autorités prennent davantage soin des sites qui donnent une image ou un pesant à leur commune et qui mettent en place des politiques et même des stratégies d'embellissement de leur ville pour davantage attirer les touristes.
Aujourd'hui, le tourisme n'a plus de sens et n'existe pratiquement plus au Cameroun. Plus précisément à l'extrême nord surtout. Pourquoi ? Parce que non seulement nous ne constatons plus la visite des étrangers, parce qu'auparavant, de part et d'autre, nous rencontrions toujours les visiteurs qui venaient découvrir, et venaient même aller un peu plus droit en parlant du mont de Rumski, qui paraît l'une des plus grandes collines. Mais aujourd'hui, le secteur est pratiquement inerte. Et il faut aussi savoir qu'il y avait des personnes formées dans ce domaine, et beaucoup avaient investi même. Mais de nos jours, vu que le tourisme n'a plus de sens et c'est un secteur qui est pratiquement mort, ces personnes se trouvent un peu coincées. L'environnement naturel qui était beau à observer et qui était vraiment attirant ne l'est plus. Et les investissements sont juste là, inexploités. Et nous invitons quand même l'État d'essayer de nous venir en aide afin que cette situation change. Afin que ce secteur essaye un peu de rayonner comme avant. Le tourisme, c'est une activité très importante et que nous voulons encore revivre ce temps-là.
Depuis 2014, là, le tourisme est un peu difficile à l'extrême parce que avec le problème de Boko Haram, on ne sait pas s'il y a quand même le tourisme maintenant.
Depuis l'avènement de la crise Boko Haram, le tourisme dans la région de l'Est a pris un grand coup. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matière à travailler par rapport au tourisme. Il y a de très belles zones à explorer, de très belles zones touristiques à explorer. Donc il faudrait vraiment que le gouvernement et les autorités compétentes mettent leurs compétences en exergue et essaient de relancer ce secteur.
Vous venez de l'entendre, docteur, les populations ont hâte de revoir l'activité touristique renaître. Que pouvez-vous leur promettre?
Alors, à un autre niveau, en tant que sectoriel, du secteur tourisme et de loisirs, des stratégies sont mises sur place. Vous savez, ça ne peut que être à court, à moyen et à long terme. Parce que, alors, à court terme, nous avons lancé il y a quelques moments des stratégies de promotion. C'est-à-dire, il faut d'abord promotion découverte. Dans ce package-là, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il faut au même moment faire découvrir aux gens le beau visage de la région de l'extrême nord et également, c'est-à-dire faire de la grande promotion. C'est deux choses qui vont ensemble. Ça, c'est la première chose. Et ceci, c'est d'abord localement, parce que aujourd'hui nous avons les moyens quand même de faire la promotion au niveau international avec les sites internet, les réseaux sociaux et autres, mais ça ne suffit pas, parce que quand il y a une crise comme le Covid, c'est pas parce que vous avez fait la promotion que quelqu'un veut quitter alors qu'il y a des restrictions. Ça a ses limites, mais je pense qu'au niveau d'abord du tourisme local, il y a beaucoup de choses à faire, parce que les nationaux, je pense, ne connaissent même pas leur pays. Donc, il faut d'abord les inciter. Alors, nous avons mis sur place une stratégie, c'est-à-dire de faciliter aux administrations de pouvoir passer un week-end dans une zone de leur choix, de leur facilité. aux fonctionnaires, aux étudiants, aux élèves. C'est-à-dire, nous avons toutes ces facilités-là. Nous avons mis des stratégies sur place et nous avons mis des connexions, c'est-à-dire entre les différents promoteurs pour véritablement faciliter, c'est-à-dire soit l'accès au site, soit l'accès au site d'hébergement, soit... Donc, toutes ces stratégies sont mises sur place afin de permettre quand même aux touristes locaux de pouvoir développer leur région. Ça, c'est un peu à court terme. À moyen terme, je pense que nous avons, vous savez, chaque année, on anime les clubs de tourisme au sein des établissements scolaires, c'est-à-dire au secondaire et supérieur. Je pense que demain, ils seront des hauts fonctionnaires, ils auront assez de moyens peut-être pour se déplacer, mais sachant déjà que qu'on a préparé leur esprit, c'est-à-dire à la chose du tourisme, je pense qu'ils pourront être des ambassadeurs, c'est-à-dire du secteur de tourisme. Donc l'idée, c'est de pouvoir d'abord, à la base, faire comprendre aux jeunes qu'il faut qu'ils découvrent d'abord leur région et puis le Cameroun. Il y a assez de choses à découvrir et on dit bien c'est de l'Afrique en miniature, donc vous trouvez l'Afrique quelque part au Cameroun. Ça, il faut préparer donc la jeunesse, c'est-à-dire à comprendre que nous avons toutes ces potentialités-là. Voilà.
Et à moyen terme?
Donc, naturellement, des choses à moyen terme également sont en train d'être faites. C'est-à-dire, nous organisons les colonies au niveau national. Avec la décentralisation, je pense qu'il est important également de pouvoir organiser les colonies au niveau des régions, voire même au niveau des départements. Ça permettrait donc seulement, après cette crise où on a trop fait des distanciations, de se rapprocher. Et je dis, bon, pour la région de l'extrême nord, on parlerait de double crise, c'est-à-dire la secte islamiste qui a d'abord créé une distanciation entre les hommes et puis la deuxième crise sanitaire qui a également creusé l'écart de distanciation. Il est important maintenant de revenir au brassage d'avant, et ceci c'est à travers donc le tourisme, c'est-à-dire dans ce package nous pouvons mettre le vivre ensemble très cher à la nation camerounaise, et le tourisme peut véritablement jouer le jeu à ce niveau. Alors ça c'est à moyen terme. À long terme, je pense que il faudrait également, nous avons mis sur place, nous sommes en train de travailler là depuis le document cadre de développement de tourisme dans, particulièrement, je parle d'abord de ma région, dans la région de l'extrême nord. Au fait, ce sera comme un guide où nous avons inséré toutes les actions et les stratégies à mener pour permettre au tourisme de se développer naturellement. Maintenant, au niveau national, dans le cadre de la SND, dans la SND 30, des actions sont mises en place par le ministère à travers son chef, le ministre d'État, on a fixé des objectifs. Des objectifs de dépasser les 3 millions, c'est-à-dire de touristes à l'horizon 2030-2035. Donc, il faut naturellement mettre les moyens en jeu, c'est-à-dire la promotion, les infrastructures et tout ça. Je pense qu'à long terme, on est dans cette perspective. C'est-à-dire, on a fixé déjà les objectifs. Je pense que les moyens pour arriver sont déjà, c'est-à-dire, connus. Donc, il faut les implémenter.
D'accord. Et comment s'effectue votre veille? Question de situer le tourisme à l'extrême nord. Est-ce que vous effectuez des descentes?
Naturellement. Nous effectuons des descentes au niveau de la région. On fait des descentes dans les départements pour palper en réalité la situation, parce que dans tous les départements c'est pas la même. Donc si vous prenez par exemple la crise liée à Boko Haram, c'est pas tous les départements qui ont été secoués. Alors pour le Covid, c'est une question mondiale. Mais nous faisons des descentes afin de recueillir donc les informations d'abord auprès des promoteurs qui sont directement en contact avec les touristes pour qui nous donnent les informations par rapport à la difficulté rencontrée. Donc, ben, je vous donnais quelques chiffres tout à l'heure, c'est les chiffres ici de ces différents établissements. De ces différents promoteurs. Donc, chaque département a ses spécificités et nous faisons des descentes pour un peu palper, recueillir les informations nécessaires, c'est-à-dire à pouvoir proposer également les plans de riposte, le plan de promotion, le plan de développement. Je pense que c'est comme ça qu'on essaye de développer les stratégies. Donc, on recueille d'abord les informations et par rapport à ça, on met en place un plan de riposte en développant les stratégies. Naturellement, qu'on envoie aussi à la hiérarchie pour qu'ils prennent en compte dans les grandes décisions au niveau national.
D'accord. Et comment faites-vous pour tirer profit des quelques touristes qui font des descentes dans la région de l'extrême nord?
Alors, comment on fait? Déjà, aujourd'hui, je puisse dire que nous n'avions pas véritablement des arrivées conséquentes. Nous n'avions pas. Mais alors, quand les touristes viennent, on leur propose, c'est-à-dire des produits. C'est-à-dire des produits, c'est d'abord quoi? C'est un circuit, c'est une destination, la destination la plus prisée. Et l'idée, en réalité, pour le sectoriel comme nous, c'est que le touriste passe le maximum de temps quand il vient. Ça veut dire que, naturellement, qu'il dépensera plus, et c'est bon. Il faut qu'ils viennent nous laisser l'argent, s'il faut le dire de manière très concrètement, c'est ça. Il faut qu'ils laissent le maximum. Donc, pour laisser le maximum, on lui propose également les meilleurs produits. Il faut qu'il aille dans les zones où il va se plaire naturellement avec, c'est-à-dire en lui demandant quel type de produit qu'il veut, mais généralement, c'est les guides qui sont directement en contact avec ces touristes. Et chaque année, je pense au moins deux ou trois fois, nous tenons des réunions avec les guides pour un renforcement de capacité. C'est-à-dire, c'est important, un renforcement de capacité, les nouvelles exigences, parce que au niveau du gouvernement, il y a des exigences. Est-ce que, quand le touriste vient aujourd'hui, est-ce qu'ils sont traités comme avant? Aujourd'hui, par exemple, dans des zones un peu où il y a l'insécurité, il faut les escorter, il faut donc... Les guides doivent avoir ces informations pour ne pas créer également des situations un peu désagréables.
D'accord, docteur, vous avez des partenaires?
Oui, nos partenaires, naturellement, ce sont ceux avec qui directement nous traitons, c'est-à-dire les tour opérateurs, Généralement, nous avons quelques tour opérateurs qui sont installés partout ailleurs, c'est-à-dire en Europe, en Asie et tout ça, qui font voyager, c'est-à-dire quand dans les bons moments, je veux dire, ce que je vous disais tantôt, depuis 2013 jusqu'aujourd'hui, donc pratiquement depuis 2014 jusqu'aujourd'hui, ce n'est qu'en 2019, depuis 2019 qu'on a enregistré quelques touristes. Donc vous voyez, le partenariat est un peu en veille. Ouais. En veille, on espère dans les prochains mois, la crise sanitaire nous le permet bien, donc nous allons réveiller ces partenariats, mais bien avant, nous collaborons avec ces différents, c'est-à-dire différents partenaires qui font dans les transports, qui font dans le vente de destinations, donc tout cela sont nos partenaires avec qui nous traitons au quotidien.
D'accord, et en cette période de double crise, quel rôle jouent exactement vos partenaires
pour... Alors, naturellement, ils ont dû constater également que les déplacements sont réduits. Et quand les déplacements sont réduits, le chiffre d'affaires aussi diminue. Quand vous prenez une compagnie comme Camerco, en temps de crise et sans crise, bon, je ne vais pas de vous dire, mais naturellement, ça va impacter. Donc, je pense que en temps de crise comme ça, c'est beaucoup plus de la promotion. C'est-à-dire, faire de la promotion, toujours vendre l'image de la destination Cameroun, vendre l'image de la destination de notre région. Je pense que c'est le rôle que jouent les partenaires et également. Ils sont très impatients de retrouver qu'on retrouve la situation d'avant les deux crises.
Ok. Et quel objectif vous vous êtes fixé dès votre prise de fonction?
Alors, mon objectif fixé dès ma prise de fonction, c'est sincèrement de mettre sur place un document cadre de développement du tourisme et des loisirs dans la région de l'extrême nord. Parce que il ne faut pas naviguer à vue, il faut avoir un guide. Alors, naturellement, dans ce guide, il y a beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, par exemple, vous allez constater que en matière de tourisme et de loisirs, les clubs tourisme que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas assez d'établissements pilotes dans lesquels sont installés. Alors on se fixe un objectif, c'est-à-dire dans 5 ans qu'on soit à 50% des établissements qui ont les clubs tourisme, dans 10 ans qu'on soit à 70% des sites touristiques qui sont aménagés, peuvent être, c'est-à-dire faire sur l'objet de découverte que les gens y vont pour visiter, que les sites soient actualisés, parce que vous savez, chaque fois il y a des sites méconnus là, donc que ces sites soient également visiter, répertorier d'abord, quand j'ai dit actualiser, donc il faut d'abord les répertorier, il faut d'abord voir leur côté, c'est-à-dire attraction, et nous avons également ces objectifs-là. Nous avons également les objectifs d'améliorer la qualité d'accueil et la qualité des infrastructures hôtelières, que ce soit les hôtels, que ce soit les agences et tout ça, parce que vous allez comprendre que c'est l'élément fondamental pour attirer également les touristes. Donc si les infrastructures ne sont pas de qualité, si les hôtels ne sont pas de qualité, alors ça ne va pas faciliter également, c'est-à-dire le développement du secteur de tourisme. Naturellement, il faut créer des parcs de loisirs. C'est important. C'est important. Donc, sur tous les plans, il faut également, c'est-à-dire faire à ce que les établissements se conforment à la réglementation en vigueur. Je pense que c'est très important. Il y a des établissements qui fonctionnent dans l'illégalité. Il est temps de les remettre sur les rails pour qu'ils se conforment aux lois et en vigueur dans le secteur du tourisme et des loisirs.
Ok, quel est le plus grand défi pour espérer un redécollage du secteur touristique à l'extrême?
Alors, le plus grand défi, je pense que c'est la promotion. C'est la promotion. Je pense que il faut développer à tous les niveaux les stratégies de promotion. Je pense bien les uns et les autres ne découvrent pas d'abord parce qu'ils ne connaissent pas. Naturellement, quand je prends la région de l'Extrême Nord, nous avons d'autres défis. D'autres défis liés, c'est-à-dire, c'est pas lié à notre secteur. Vous ne pouvez pas visiter s'il n'y a pas de route. Les voies d'accès, c'est le défi majeur. Mais je préférais donc parler du défi qui m'incombe à moi. J'ai dit, c'est la promotion, le plus grand défi me concernant. Mais naturellement, il faudrait quand même que les autres aspects viennent se greffer, c'est-à-dire l'accès au site, la sécurité, le CCDON. Donc ça, c'est d'autres défis qui viennent se greffer et qui concernent les pouvoirs publics.
Docteur Kodi Deli, nous sommes dans la troisième partie de notre entretien, le jardin intime. Merci d'abord de vous prêter à ce jeu. Le docteur Kodi Deli a quel âge?
39 ans.
Marié ou non, avec des enfants?
Oui, je suis marié. Une charmante, dame.
Combien d'enfants?
Deux enfants, deux petits garçons.
Avez-vous déjà pensé à la polygamie?
Pas encore. Ça ne m'est pas traversé l'esprit. Mais je sais que mon père était polygame. Hypergame même, s'il faut le dire.
Une question un peu indiscrète. Fréquentez-vous les boîtes de nuit?
Naturellement. Mais pas pour... par rapport à l'activité. C'est-à-dire à mes prérogatives de délégué de tourisme, parce qu'il faut contrôler la qualité de ces établissements.
Mais ça veut dire que quand vous allez en boîte de nuit, ce n'est pas pour danser, c'est juste pour des inspections?
Ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans les boîtes de nuit pour danser. Je parle dans le cadre de travail. Peut-être que, bon, parfois ça peut se mélanger, mais ce n'est pas encore arrivé que ça se mélange.
Intéressons-nous à votre mode vestimentaire. Le docteur Kodi Deli préfère les boubous ou alors les costumes?
Alors, ça fait longtemps que je porte naturellement les vestes, les saillons, les gandouras. Le week-end, je suis en jogging.
Le docteur préfère les femmes taillées ou les femmes rondes?
Je n'ai jamais eu de préférence particulière. J'aime les femmes par rapport à leur attitude.
Docteur Cody Deli, vous êtes le délégué régional du tourisme et des loisirs. Merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez pour présenter la situation du tourisme et des loisirs dans la région de l'Extrême-Nord.
Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition d'une heure pour convaincre. Il était question du tourisme qui peine à redécoller dans la région de l'Extrême Nord avec la crise sécuritaire et la COVID-19. Nous avons reçu sur ce plateau le docteur Cody Deli, le délégué régional du tourisme et des loisirs pour l'Extrême Nord. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une autre édition d'une heure pour convaincre. D'ici là, portez-vous bien, restez scotchés au programme de Radio Osiris.